Ben-Hur, chapitre 37, apparition du précurseur. Le troisième jour de son voyage, la petite compagnie fit halte vers midi au bord du Jabbok, en un endroit où une centaine d'hommes, presque tous originaires de Péré, se reposaient avec leur bétail. À peine les nouveaux venus avaient-ils quitté leur monture que l'un d'eux vint leur offrir à boire. Pendant qu'il le remerciait, il regardait avec admiration le chameau de Balthazar. « J'arrive du Jourdain, où il y a en ce moment des voyageurs venus comme vous de pays éloignés, mes illustres amis, dit-il, mais aucun d'eux ne possède un dromadaire comparable à celui-ci. C'est un noble animal. Me serait-il permis de m'informer de la race dont il est issu ?» Balthazar lui répondit, après quoi il ne songea plus qu'à se reposer. Mais Ben-Hur, plus curieux, continua la conversation. « À quel point de la rivière se trouvent tous ces étrangers ?» demanda-t-il. À Bétabara. C'était jadis un guet très fréquenté. Je ne comprends pas ce qui lui a procuré tout à coup autant de notoriété. Je vois, dit l'étranger, que tu n'as pas encore appris la bonne nouvelle.
Quelle bonne nouvelle?
Un homme est apparu au désert, un homme très saint, dont la bouche est pleine de paroles étranges qui font une profonde impression sur ceux qui les entendent. Il s'appelle Jean, le Nazaréen, fils de Zacharie. Il dit qu'il est un messager envoyé pour annoncer le Messie. » Iras elle-même prêtait une oreille attentive à ce que racontait cet homme. « On dit que ce Jean a passé sa vie depuis son enfance dans une caverne près d'Engedi, continua-t-il, priant et menant une vie plus sévère encore que les Esséniens. Des foules vont l'entendre prêcher. J'y suis allé comme tout le monde. » « Tous ces hommes-là en viennent-ils ? » « La plupart d'entre eux s'y rendent, le petit nombre seul en reviennent. »«
Que prêche donc cet homme ?»«
Une doctrine que, de la vie de tous, personne n'avait jamais enseignée en Israël. Il parle de repentance et de baptême. Les rabbis ne savent que penser de lui. Nous n'en savons pas davantage. Quelques-uns lui ont demandé s'il est le Christ, d'autres s'il est Élie. À tous, il répond « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Aplanissez le chemin du Seigneur. » À ce moment, les compagnons de cet homme l'appelèrent, et comme il se préparait à les quitter, Balthazar lui dit « Bon étranger, apprends-nous, je te prie, si nous trouverons encore le prédicateur à l'endroit où tu l'as laissé. » «
Oui, à Bétabara. »
« Que serait-ce ce Nazaréen, si ce n'est le héros de notre roi ?» s'écria Ben-Hur, s'adressant à Iras, qu'il considérait déjà comme plus directement intéressé à la venue du mystérieux personnage que son vieux père. Néanmoins, ce fut lui qui répondit en se levant avec une vivacité dont personne ne l'aurait cru capable.
« Partons en toute hâte, je ne suis plus fatigué. »
Ils campèrent pour la nuit à l'ouest de Ramoth de Galaad et ne s'attardèrent pas longtemps à causer.
« Il faudra nous lever de bonne heure, fils de Hur, » dit le vieillard.
« Le sauveur pourrait arriver avant que nous fussions là pour le voir. » « Le roi ne peut être bien éloigné de son héros, » murmura Iras. Et Ben-Hur lui répondit, « Demain, nous le verrons. » Le lendemain, à la troisième heure, les voyageurs, après avoir contourné le mont de Galaad, débouchèrent dans une steppe aride, à l'est de la rivière sacrée. En face d'eux, ils apercevaient l'extrême limite de la plaine de Jéricho, qui se déroulait, ombragée par ses vieux palmiers, jusqu'au pied des collines de Juda. « Réjouis-toi, excellent Balthazar, » dit Ben-Hur. Nous voici presque arrivés au gué de Bétabara. » L'Éthiopien excitait le chameau de la voie. Ils avançaient rapidement et bientôt ils distinguèrent des tentes, des animaux attachés tout au près et une foule immense groupée sur les deux rives du Jourdain. Évidemment, le prédicateur parlait en ce moment et dans leur désir de l'entendre, ils pressaient encore le pas de leur monture. Mais tout à coup, ils remarquèrent que la multitude commençait à se disperser.
« Nous arrivons trop tard !» s'écria Balthazar en levant ses mains vers le ciel avec un geste de désespoir.
« Restons ici, » dit Ben-Hur. « Il se pourrait que le Nazaréen vînt de ce côté. » Chacun était trop préoccupé de ce qu'il venait d'entendre pour prendre garde aux nouveaux venus. Ceux-ci commençaient à perdre tout espoir de voir encore ce jour-là le prédicateur quand ils aperçurent se dirigeant de leur côté un homme dont la singulière apparence absorba aussitôt leur attention. Il y avait dans sa personne quelque chose de rude, de grossier, de sauvage même. Ses cheveux incultes retombaient sur son visage décharné et jusque sur ses épaules et son dos. Sa peau ressemblait à du parchemin.
Ses yeux brillaient comme la flamme. Son côté droit, aussi maigre et aussi brun que son visage, était découvert. Un vêtement en poil de chameau, retenu à la ceinture par une courroie en cuir non tanné, recouvrait le reste de son corps jusqu'aux genoux. Ses pieds étaient déchaussés. Une gibecière pendait à sa ceinture et il s'appuyait en marchant sur un bâton noueux. Il avait des mouvements prompts et saccadés et rejetait à tout moment en arrière les cheveux rebelles qui persistaient à retomber sur ses yeux. Il regardait autour de lui comme s'il avait été à la recherche de quelqu'un. La belle égyptienne considérait ce fils du désert avec étonnement, pour ne pas dire avec dégoût. Elle souleva un des rideaux du palanquin et appela Banur qui chevauchait à quelques pas d'elle. « Est-ce là le héros du roi ?» lui dit-elle. « C'est le Nazaréen, » répondit-il sans lever les yeux. À la vérité, il était lui-même plus que désappointé. Il avait pourtant souvent rencontré quelques-uns des ascètes qui habitaient En-Gedi, et il connaissait bien leurs costumes, leur mépris de l'opinion du monde et la fidélité avec laquelle ils observaient des vœux qui leur imposaient des tortures corporelles et les séparaient absolument du reste du genre humain. Cependant, bien que l'homme qui avait parlé du Nazaréen eût dit que celui-ci prétendait n'être qu'une voix criant dans le désert, Ben-Hur se faisait du roi qui devait venir une image trop brillante pour ne pas s'attendre à trouver dans son précurseur un être ayant une apparence divine et royale. Il ne put s'empêcher de comparer intérieurement cette sauvage figure avec les courtisans qui entouraient l'empereur à Rome et, honteux, décontenancé, il répéta « C'est le Nazaréen ». Balthazar ne partageait point sa surprise. Il savait que les voix de Dieu ne ressemblent point à celles des hommes. D'ailleurs, il avait vu le Sauveur dans une crèche, et il était préparé d'avance à ce que la révélation se manifestât d'une manière simple et sans aucun apparat. Il n'attendait pas un roi, lui, et les mains jointes, il murmurait tout bas une fervente prière. Pendant qu'il s'absorbait ainsi dans la contemplation du prédicateur étrange, il y avait non loin d'eux un homme assis sur une pierre au bord de la rivière et qui paraissait plongé dans une profonde méditation. Il est probable que le sermon qu'il venait d'entendre faisait le sujet de ses pensées. Quoi qu'il en soit, il se leva tout à coup, quitta le rivage et s'avança à la rencontre du Nazaréen. Quand celui-ci l'aperçut, il s'arrêta brusquement et fit signe à tous ceux qui l'entouraient d'écouter. Puis il étendit sa main droite vers l'étranger, sur lequel tous les yeux se fixèrent immédiatement. Il était d'une taille dépassant à peine la moyenne, son maintien calme et digne, comme celui d'un homme dont les pensées s'occupent habituellement de sujets sérieux, s'harmonisait parfaitement avec son costume, composé d'un long vêtement à manches et d'une robe de dessus appelée le talit. Il portait sur son bras le mouchoir destiné à couvrir sa tête. À l'exception de ce mouchoir rouge et du bord bleu de son talit, tous ses vêtements étaient faits de toiles de lin jaunies par la poussière du chemin. La frange bleue et blanche que les rabbis devaient porter pour obéir à la loi garnissait le bas de sa robe. Ses sandales étaient des plus simples. Il n'avait pas de ceinture et ne tenait point de bâton à la main. Balthazar, Iras et Ben-Hur ne s'arrêtèrent pas à considérer ces détails accessoires, mais son visage et le charme irrésistible de son expression les frappa singulièrement, ainsi que tous ceux qui les entouraient. La lumière tombait en plein sur sa tête, couverte seulement de sa longue chevelure légèrement ondulée, partagée par le milieu et dont la chaude nuance brun doré prenait aux rayons du soleil des teintes rougeâtres. Il avait un front large et bas, des sourcils noirs et bien arqués, sous lesquels brillaient de grands yeux bleu foncé, dont le regard profond et tendre était encore adouci par des cils longs, comme le sont parfois ceux des enfants, mais bien rarement ceux des adultes. La finesse de ses narines et de sa bouche donnait à son pâle visage une ressemblance avec le type grec, mais sa longue barbe soyeuse qui tombait sur sa poitrine était bien celle d'un juif. Un soldat aurait ri à l'idée de se mesurer avec lui, mais aucune femme n'aurait hésité à lui accorder sa confiance et pas un enfant ne l'aurait rencontré sans mettre immédiatement sa petite main dans la sienne. Son expression annonçait tout à la fois l'amour, la pitié, la souffrance d'une âme sainte, condamnée à voir et à comprendre l'état de péché dans lequel étaient plongés ceux à côté desquels il passait. Il s'avançait toujours lentement vers les trois amis. Ben-Hur, monté sur son cheval fringant, et la lance à la main, aurait certainement attiré en premier lieu les regards d'un roi. Cependant, les yeux de cet homme ne se fixèrent pas sur lui, ni sur Iras, mais sur Balthazar, le vieillard incapable d'être utile à qui que ce fût. Quand il se trouva tout près du Nazaréen, celui-ci, la main toujours étendue, s'écria à haute voix « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde !» La plupart de ceux qui entendirent ces paroles demeurèrent frappés de stupeur, car elles dépassaient leur entendement, mais elles produisirent sur Balthazar l'effet d'un éblouissement. Il revoyait, une fois encore, le Rédempteur des hommes. À la lumière de la foi qui lui avait jadis acquis un si grand privilège et que les années n'avaient pas ébranlé, il comprenait que celui qu'il voyait devant lui n'était autre que l'être idéal dont il attendait depuis si longtemps la manifestation, et, comme s'il avait voulu affermir la conviction du vieillard, le Nazaréen répéta « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde !» Balthazar tomba à genoux. Pour lui, il n'avait pas besoin d'en entendre davantage. Mais le Nazaréen continua en s'adressant à ceux qui l'entouraient plus immédiatement. « C'est celui dont je disais, il vient après moi un homme qui m'est préféré car il est plus grand que moi. Et pour moi, je ne le connaissais pas, mais je suis venu pour baptiser d'eau afin qu'il soit manifesté à Israël. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il s'est arrêté sur lui. Pour moi, je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'avait dit « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit, et je l'ai vu et j'ai rendu témoignage. » Il s'arrêta, puis, comme pour donner plus de solennité à sa parole, il tendit de nouveau la main vers l'étranger, debout à quelques pas de lui dans ses vêtements blancs, et s'écria « J'ai rendu témoignage que c'est lui qui est le Fils de Dieu. » « Oui, c'est lui !» s'écria Balthazar en levant vers le ciel ses yeux pleins de larmes. L'instant d'après, il tombait évanoui. Ben-Hur, pendant tout ce temps, n'avait cessé de considérer le visage de l'étranger avec des sentiments tout différents de ceux qui agitaient le vieil Égyptien. Il n'était point insensible à la pureté de ses traits, à son expression pensive et tendre, à son air d'humilité et de sainteté, mais, trop préoccupé par une pensée unique pour pouvoir songer à autre chose, il ne cessait de se demander « Qui est cet homme ? Sera-t-il roi ou messie ?» Jamais apparition ne lui avait paru moins royale. Bien plus, il lui semblait que ce serait commettre une profanation que de songer à associer cet être calme et doux à des idées de guerre et de conquête. Et il commençait à penser que Balthazar devait avoir raison et que Simonide se trompait. Cet homme ne pouvait être venu au monde pour relever le trône de Salomon. Il n'avait ni la nature, ni le génie d'un Hérode. Tout en faisant ses réflexions, il se disait qu'il avait déjà vu ce visage. Il interrogeait sa mémoire pour savoir où il l'avait rencontré, et quand ce même regard d'affection et de pitié qu'il levait sur Balthazar s'était posé sur lui. Vaguement d'abord, puis toujours plus nettement, la scène qui s'était passée près du puits de Nazareth, quand les Romains l'emmenaient aux galères, se retraça devant ses yeux. Ses mains lui avaient porté secours, alors qu'il se sentait mourir. Ce visage était bien celui qui, dès lors, ne s'était jamais effacé entièrement de son souvenir. Si grande était l'excitation que lui causa cette découverte, que le discours du prédicateur fut perdu pour lui. Il entendit seulement ces dernières paroles, merveilleuses, qui n'ont cessé dès lors de retentir dans l'univers. « C'est lui qui est le Fils de Dieu ». Ben-Hur s'élança à terre pour aller rendre hommage à son bienfaiteur. Mais Iras lui cria « Viens à notre secours, fils de Hur, viens à notre secours ou mon père va mourir !» Il s'arrêta, regarda derrière lui et se rendit en toute hâte à son appel. Elle lui jeta un gobelet et laissant à l'esclave le soin de faire agenouiller le chameau, il courut le remplir à la rivière. Lorsqu'il revint, l'étranger avait disparu. Lentement, Balthazar reprenait connaissance. Enfin, il étendit ses mains devant lui et murmura d'une voix faible « Où est-il » « Qui donc ?» demanda Iras. Il répondit en joignant les mains avec extase. « Lui, le Rédempteur, le Fils de Dieu, que j'ai revu encore une fois. « Crois-tu vraiment que ce fut lui ?» dit tout bas Iras. « Nous vivons dans un temps plein de miracles. Attendons avant de juger, » répondit Ben-Hur. Puis il s'écria en se tournant vers les curieux qui les entouraient, Qui est cet homme qui s'en va là-bas ? » L'un d'eux éclata de rire et répondit d'une voix moqueuse : « C'est le fils d'un charpentier de Nazareth !»